Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour continuer cette semaine notre petite promenade à travers quelques textes un peu plus courts. Et après la grande bretèche de Balzac, nous allons nous intéresser à un texte de Didier Deninx, Le Monument. Eugène Varlot était originaire de Paris. En 18 mois de guerre, il n'a jamais revu sa famille, ses permissions étant toujours annulées au dernier moment. Passionné par l'écriture, il a laissé un journal qui relate tous les combats auxquels il a pris part sur la Marne, en Champagne. Ses carnets ont été retrouvés à son domicile de la place du Maroc, Paris 19e, en janvier 1920. Lors de l'enquête de police qui a suivi sa mort accidentelle et celle de sa compagne, dans l'explosion de leur voiture, rue d'Aubervilliers. Je me souviendrai toujours du 27 avril 1917, et pas seulement parce que c'était le jour de mes 20 ans. Ce matin-là, c'était des vies qu'on soufflait à la place des bougies. Depuis une semaine, nos chefs nous envoyaient sans répit à l'assaut d'une colline hérissée de barbelés et farcie de nids de mitrailleuses. Quand on n'était pas à courir sous la grêle de plomb et de cuivre, on faisait des cartons sur les nuées de corbeaux, les armées de rats qui bouffaient les morts et s'attaquaient aux blessés que nous n'avions plus la force de ramener dans les tranchées. La relève se faisait attendre. Et c'était toujours les mêmes qui montait au casse-pipe. Depuis près d'un an, on formait une paire miraculeuse avec Quentin, dont la famille vivait en pleine zone occupée, 30 kilomètres derrière les tranchées allemandes. Rien ne nous avait atteint, ni les balles, ni les bombes, ni les gaz. Pas une blessure, pas même une égratignure. On passait à travers la mitraille et quelquefois, on se disait qu'on serait capable de rester sec sous un orage. Sauf que depuis une petite semaine, je voyais bien qu'il ne tournait pas très rond. J'avais essayé de lui tirer les vers du nez, mais les combats se succédaient à un tel rythme qu'on n'avait jamais le temps d'aligner plus de trois mots. Le 27, l'offensive avait été déclenchée à 5 heures du matin. 3 heures plus tard, nous barbotions encore dans une boue immonde, gorgée de sang et de viscères, pour rejoindre nos lignes. Jamais je n'avais laissé tant de copains au bord du chemin. C'était vraiment le chemin des damnés. Quand on a enfin réussi à sauter dans le boyau, une escouade se préparait à grimper les échelles pour se faire hacher menu sur la plaine. La sentinelle nous a regardés comme si nous étions des fantômes. Bah, « Vous arrivez d'où tous les deux ?»« Du Cinoche !» C'était une réplique à la Griffon. Mais c'était moi qui l'avais lancée. Je n'avais plus de tabac et un caporal m'a donné une toute cousue cabossée que j'ai rectifiée du bout des doigts. Je venais à peine de l'allumer qu'un officier me l'a fait sauter des lèvres d'une pichenette. « C'est pas le moment de fumer, on attaque !» Je n'ai même pas eu le temps de lui dire qu'on en revenait à peine, qu'il a embouché son sifflet et dégainé son pistolet pour donner le signal du massacre. J'ai empoigné le bois gluant de l'échelle Je me suis élancé en gueulant comme un bœuf pour bloquer la peur, griffon sur mes talons. On a couvert une cinquantaine de mètres, courbés en deux sans que les Allemands ripostent. Devant nous, les premiers sortis s'attaquaient aux barbelés quand les obus nous sont tombés dessus, du gros calibre. Il nous a fallu un bon moment pour réaliser qu'ils étaient tirés de l'arrière. J'ai pris Griffon par le bras pour l'obliger à se laisser glisser dans le cratère tout neuf d'une pièce de 150. Il y avait déjà deux locataires. Des soldats du bataillon Auberger qui nous ont accueillis par une vanne. « On peut être content, on fait honneur à la France. C'est de l'obus bien de chez nous qui va nous réduire en bouillie. » D'après les contes et les légendes des tranchées, un obus ne venait jamais faire son trou dans le nid d'un autre obus. Il suffisait donc d'attendre que ça se passe en priant que si les Allemands se décidaient à bombarder à leur tour, leurs marmites explosives obéissent aux mêmes contes et légendes que chez nous. Griffon s'est installé à l'écart, adossé à la terre. Il faisait tellement la gueule que ça m'a découragé d'aller vers lui. Il a sorti un bout de papier de sa poche, un crayon dont il a mouillé la pointe sur sa langue, et il s'est mis à écrire, comme si plus rien n'existait autour de lui. À un moment, le tonnerre s'est éloigné. J'ai tapé sur l'épaule d'un des gars d'Auberger. On dirait qu'ils ont allongé le tir. C'est le moment de rentrer à la maison. Je me suis retourné vers Griffon. Le cri s'est bloqué au fond de ma gorge. Il se tenait accroupi et me regardait, son fusil coincé entre ses genoux, le canon du nougat dans la bouche, le bras allongé vers la détente. La déflagration lui a arraché la moitié du visage. J'ai couru vers lui en pataugeant. Mais il avait déjà cessé de vivre. J'ai ramassé l'enveloppe maculée de son sang qu'il avait pris le temps de coller et qui dépassait dessous son corps. Je l'ai glissé dans ma poche. Puis j'ai pris son fusil et j'ai commencé à lui écraser la tête à coups de crosse. Les deux autres soldats se sont mis à me crier dessus comme quoi j'étais devenu dingue, qu'ils allaient tirer. À cet instant précis, et pour bien nous rappeler que toutes les légendes ne sont qu'un tissu de conneries, un obus de 110 est venu se loger au centre de notre abri. Mon dernier souvenir de cette bataille, c'est leurs deux corps mutilés, projetés dans l'espace. Je me suis réveillé des siècles plus tard, en deuxième ligne, dans un poste de secours installé en bordure d'un canal entre Courmelois et Villers-Marmerie. Je n'avais rien, apparemment. Mais les premiers jours, je ne pouvais pas cligner une paupière, avaler une bouchée ou prononcer un mot sans déclencher des migraines que seul le laudanum parvenait à atténuer. Dès que je m'étais senti mieux, je m'étais porté volontaire pour donner un coup de main au chirurgien, un type hautain qui se faisait appeler « Monsieur le Comte ». Sa table d'opération était encore plus meurtrière que le front sous nivelle. J'avais rendu mon tablier en prétextant une reprise de vertige quand, l'après-midi du 1er mai, il s'était trompé de client et avait sectionné la jambe valide d'un jeune gars. L'hôpital de campagne occupait l'église, le presbytère du village. Un artilleur qui avait été pianiste au concert Mayol tentait de rééduquer ce qui lui restait de doigts en plaquant des accords sur l'harmonium remisé dans la chapelle. Dès que je lui avais raconté l'histoire de l'amputation, il s'était mis à jouer la chanson de Craon. Et je l'avais accompagné en beuglant des paroles interdites. « Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. » Ce qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève, mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Mon poing levé se détachait dans la lumière blanche qui filtrait des vitraux.
lorsque la porte s'était ouverte sur le tablier souillé de « Monsieur le Comte ».
On dirait que ça va mieux, Varlo. J'en vois passer de drôlement plus abîmés que toi, qui n'ont pas peur de remonter se battre au front.
Il me dégoûtait à un tel point que je n'ai pas retenu mes mots.
Sauf que c'est terminé, capitaine. Les arrivages de viande de boucherie vont se tarir. Aujourd'hui, 1er mai, on met la crosse en l'air.
Ce salaud n'était pas venu seul. Alerté par la musique dont la tête de l'auteur est, dit-on, mise à prix 1 million de francs or, il s'était fait accompagner par 3 gendarmes qui nous ont sauté dessus. Ils nous ont d'abord jetés dans une étable où on a passé la nuit le ventre vide. À l'aube, encadré par un peloton de jeunes gars de l'infanterie, on nous a emmenés en camion vers le front. Le pianiste interrogeait les bleus pour s'entendre confirmer qu'on allait nous mettre en première ligne. Moi, je ne disais rien, je savais exactement à quoi m'en tenir. Le Renault s'égarait dans la cour d'une école dont le préau avait été soufflé par un obus. Un fronton en ciment gisait, brisé à terre, sur lequel on parvenait encore à lire « École communale de Bierencourt ». Une dizaine de types sales, comme des poux, aux visages tuméfiés, aux uniformes déchirés, se tenaient dans la salle de classe au mur décoré de cartes de l'Empire où l'on nous a poussés. Les gradés se sont pointés alors que le soleil approchait du zénith. Leur mascarade n'a pas duré bien longtemps. 6 condamnations à mort pour rébellion armée devant l'ennemi, 3 peines de 10 ans de travaux publics et l'acquittement pour récompenser celui qui avait dénoncé ses camarades de misère. Ces hors-d'œuvre avaient ouvert l'appétit du colonel. Et le tribunal s'était replié vers la cantine. Le pianiste du Mayol et moi, nous devions leur servir de dessert. Les soldats nous ont traînés derrière les bâtiments. 3 poteaux noircis par le feu, déchiquetés par les balles, étaient plantés à 2 mètres du mur sur lequel les enfants faisaient jadis rebondir leurs ballons. Les 3 premiers suppliciés ont été sommés de se mettre à genoux près des pieux. On les a attachés par les poignets, un bandeau noir sur les yeux. 2 d'entre eux ont refusé le prêtre. Pas de cris, pas de pleurs. J'ai baissé la tête quand la salve les a fauchés. L'officier qui commandait le peloton s'est approché des corps pour constater la mort, puis... la scène s'est répétée à l'identique. Je suis resté longtemps le regard braqué sur les poteaux noircis. Un nœud dans le bois de celui du milieu dessinait une tête de femme. Et sur celui de droite, les balles avaient tracé les contours d'un cœur.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux civelots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cette pause musicale de circonstance, nous allons revenir au texte de Didier Deninx, Le Monument. Pendant que les soldats enlevaient les cadavres, j'avais réussi à reculer vers le mur pour frotter mes liens à une arête vive. Les fils tressés de la corde cédaient un à un et je parvenais maintenant à écarter les poignets. L'occasion de leur fausser compagnie me fut fournie par le passage à basse altitude d'une formation d'avions allemands lancée à la poursuite de deux biplans de reconnaissance française. Tous les vivants avaient levé le nez au ciel pour encourager les cocardes tricolores et invectiver les croix noires de Prusse. La joie fut à son comble lorsque notre défense anti-aérienne brisa l'aile d'un avion ennemi qui piqua et parvint à se poser en catastrophe sur le champ attenant à l'école. Toute la troupe se mit à courir pour se saisir de l'ange déchu. Délivré de mes liens, je m'approchai du pianiste, une pierre affilée à la main. « Tire tes poignets vers l'arrière, je vais couper cette corde, vite !»« Ça ne sert à rien !» C'est reculer pour mieux sauter, je reste ici. On ne va tout de même pas nous fusiller pour une chanson. Et eux, pourquoi ils sont morts? Simplement parce qu'ils étaient fatigués. Tu les as entendus? Non, viens, viens, je te dis. Ses épaules se sont affaissées. Ben, si c'est comme ça, autant en finir dès maintenant. Fais ce que tu veux, mais tu n'as aucune chance. Là-bas, les soldats du peloton entouraient l'aviateur blessé. J'ai rampé jusqu'à un bosquet, puis à découvert, je me suis mis à courir vers une grange calcinée. De là, j'ai gagné l'abri d'une forêt. J'ai marché toute la journée, contournant la ligne de front par le nord-ouest. À la nuit tombée, les combats faisaient rougir l'horizon, mais le vent ne m'apportait plus qu'un écho assourdi de la canonnade.
Je m'endormis dans une barque détachée d'un ponton bien trop éclairé par la lune. Je l'avais amarrée si mal que le vent suffit à la libérer. Quand le froid m'a réveillé au petit matin, c'est en allemand qu'on parlait sur la berge. J'ai laissé filer l'embarcation au fil de l'eau pendant des heures. Et j'ai fini par la diriger vers les voûtes sombres d'un pont. J'ai regagné la terre ferme. Une campagne paisible s'étendait à perte de vue, et pour la première fois depuis des mois interminables, aucun uniforme n'arrêtait mon regard. J'ai attendu la nuit pour bouger, malgré la faim qui me tenaillait le ventre. Je savais que si les Allemands me prenaient, ils me colleraient à l'un de leurs poteaux pour espionnage. Je ne pouvais pas davantage m'en remettre aux Français, pour lesquels je ne pouvais être qu'un déserteur, un traître. J'ai volé de la nourriture dans une ferme, privé un vieux paysan de son chapeau et de son large manteau, qui prenait l'air au pied d'un chêne alors qu'il retournait à sa terre. Un panneau planté de guingois annonçait une ville qui dessinait ses clochers, ses toits sur l'horizon. J'ai lu Saint-Quentin, 2 kilomètres. Je n'étais jamais sorti de Paris avant la guerre. Mais j'avais l'impression de connaître Saint-Quentin autant que le 19e, tellement Griffon m'en avait rebattu les oreilles. Les jours sans offensive. Je l'ai revu dans le trou de but, la gueule arrachée par la balle de son propre fusil. Toutes les images sont revenues et je me suis souvenu de son crâne qui explosait sous mes coups de crosse, puis de la lettre qu'il écrivait juste avant de se suicider. Ma main gauche a soulevé le pan du manteau. La droite a plongé dans ma vareuse pour prendre l'enveloppe maculée par son sang et la boue du cratère. Je l'ai approchée de mes yeux. Et j'ai lu l'adresse inscrite avec l'encre violacée du crayon à mouiller. Madeleine Griffon, 12 rue Cravel, Saint-Quentin. À lui remettre quand toute cette merde sera terminée. À l'approche des faubourgs, j'ai complété mon déguisement par un gros bâton sur lequel je m'appuyais pour accentuer la démarche d'un bossu. J'ai évité les grandes rues aux façades flamandes où déambulaient nombre de soldats et d'officiers prussiens. Ma confiance est allée à une mendiante accroupie près de l'église. Elle a bien compris que je masquais ma voix. Cela ne l'a pas empêchée de m'expliquer comment gagner la rue Cravel par les voies les moins fréquentées. Le numéro 12 correspondait à une maison à demi détruite, dont l'unique pièce encore viable était habitée par une femme sans âge. « Je cherche Madeleine Griffon, c'est bien là, mais qu'est-ce que vous lui voulez ?» J'ai ouvert le manteau volé, découvrant mon uniforme de fantassin. « Il faut absolument que je la voie, c'est très important. »« Comment avez-vous fait pour venir jusqu'à nous? C'est plein d'Allemands. »« Bah de grâce, appelez rapidement Madeleine Griffon ou dites-moi où je peux la trouver. Ce serait trop long à tout vous expliquer. » La vieille femme a hésité avant de m'indiquer une nouvelle adresse, un hôtel, situé légèrement en retrait de la grande rue. « Faites très attention, mon garçon, c'est vraiment devenu le quartier prussien. Il y a du chambard une bonne partie de la nuit. À ce qui se dit, ça ne se calme un peu qu'à partir de 3 heures du matin. » Avant que je m'éloigne, elle m'a tendu 2 pommes de terre et une petite bouteille de vin qu'elle est allée chercher sur sa table. Un convoi de camions d'attelage prenait la direction du front. Quand j'ai traversé le centre de la ville dans l'autre sens, les fers des chevaux glissaient sur les pavés de la rue trop pentue. Je n'avais jamais vu d'aussi près ceux avec qui l'on s'entretuait. Ils nous ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. L'hôtel du commerce faisait le coin d'une petite place triangulaire. La musique d'un piano là s'échappait du hall à chaque fois qu'un soldat poussait la porte piquée de clous cuivrés. Je me suis enfoncé dans l'obscurité d'un porche pour surveiller les allées et venues. Là d'où je venais, on continuait à se battre. Le murmure d'un lointain tonnerre permanent roulait dans la nuit. Une brume humide avait commencé à draper les façades quand le jour s'était annoncé. C'est le froid et une migraine assortie de vertige qui m'avaient forcé à traverser la place, à pousser à mon tour le battant cuivré. À peine étais-je dans le hall surchauffé qu'un étourdissement me jeta à terre. Je ne savais pas si je rêvais au paradis lorsque deux jeunes femmes habillées de leurs seuls bas et soutien-gorge se sont précipitées sur moi, m'ont soulevé et installé sur un lit parfumé après m'avoir porté dans les escaliers. Incapable de parler, j'ai à peine trouvé la force de dire « laudanum ». J'en ai bu une longue gorgée à même le flacon et la douleur a fini par refluer. Un peu plus tard, j'ai réussi à articuler quelques phrases. « Je suis venu voir Madeleine Griffon. Elle est là ?» L'une des deux filles qui m'avait hissé dans la chambre, une petite rousse aux formes pleines, au visage parsemé de taches de sang, s'est avancée près du lit. Elle avait passé un peignoir sur ses épaules nues. « Non, c'est pas vrai. Il est arrivé un malheur à René. » Je ne disposais pas d'assez de mots pour dire la vérité, alors j'ai menti. Il est mort en héros au chemin des dames. Par son sacrifice, il a sauvé la vie de tout le reste de l'escouade. Sans lui, je ne serais plus de ce monde. Je suis venu jusqu'à vous pour payer ma dette. Vous pouvez être fier de lui. J'ai fouillé dans ma poche à la recherche de la lettre et je la lui ai tendue. Il me parlait toujours de vous. Mélanie par-ci, Mélanie par-là. Tenez, c'est pour vous. Elle l'a prise en tremblant, a regardé fixement la tache brune sur l'enveloppe et a soulevé la languette en s'aidant de la pointe de l'ongle. La lecture des mots ultimes de Griffon lui a arraché un cri, aussi terrible que ceux que poussent les hommes blessés à mort lors de l'assaut. Elle s'est écroulée en proie à des convulsions et l'autre fille s'est mise à genoux pour tenter de la calmer. J'ai ramassé la lettre et j'ai lu à mon tour. Mon jeune frère Bernard a réussi à faire passer une carte de ce côté-ci des combats. Je sais ce que tu es devenu. Je ne t'écrirai plus. J'ai décidé de partir à jamais. René Griffon, 27 avril 1917. J'ai bu une nouvelle rasade de laudanum et j'ai quitté l'hôtel du commerce sans me cacher comme un client ordinaire. J'ai traversé la ville, volé un vélo qu'un soldat avait appuyé contre un mur le temps d'aller se soulager. À l'approche de la ligne de front, on a commencé à me tirer dessus. Je ne faisais rien pour me protéger. J'en avais d'un coup trop vu, trop enduré. Le temps n'était pas venu que me frappe la balle qui m'était destinée. Le brouillard s'était épaissi d'un coup, noyant le paysage. Des lambeaux de brume, poussés par le vent faible, dessinaient des formes humaines qui s'effilochaient sur les troncs déchiquetés, les barbelés, les pieux plantés sur les crêtes. J'ai réussi à franchir les derniers kilomètres protégés par cette armée des ombres, les fantômes de tous les copains morts depuis l'assassinat de Jaurès. Le 8 février 1927, 10 ans après le surprenant épisode relaté par Eugène Varlot dans ses carnets et 7 ans après sa mort dans l'incendie de sa voiture rue d'Aubervilliers, le sculpteur Christophe Pally fut désigné par concours pour concevoir et édifier un monument en l'honneur d'un village martyr, Birancourt. Il avait également pour mission de perpétuer la mémoire et le sacrifice des milliers de soldats français, anglais, canadiens et américains dont les croix blanchissaient les collines de l'Aisne. D'innombrables poilus de bronze brandissaient leurs fusils silencieux sur les places de France. Trop de veuves drapées de ciment réconfortaient les blessés, fermaient les yeux des morts sur les bas-reliefs. Pour Christophe Pally, cette statuaire ne faisait pas que commémorer, elle pansait le traumatisme de la guerre, elle détournait la douleur, elle anesthésiait le désespoir. Dans son esprit, au contraire, elle se devait d'être au niveau des souffrances des hommes, des paysages. Il ne cessait de se souvenir d'une lettre envoyée par son père quelques jours avant sa mort, en juin 1915, et que sa mère leur avait lue à sa sœur et à lui un soir en pleurant. Il fait un temps magnifique et le spectacle est indescriptible. Figure-toi l'énorme plateau où il ne reste plus un arbre, ni le moindre brin d'herbe, un sol convulsé et noirci, des milliers de cadavres français ébauchent, des armes brisées, des débris de toutes sortes. Là-dessous pèse une chaleur lourde. L'odeur est atroce et de grosses mouches bleues essaiment en tourbillon. À chaque instant, de gros obus creusent, fouillent dans cet amas. Il faut ramper pendant des heures, se faire un rempart des cadavres. Bierancourt avait été totalement anéanti lors des combats du printemps et de l'été 17. On s'y était battu à l'obus de 310, au fusil, à la baïonnette, et même à la main, à coups de pierre. Le sculpteur se mit en quête de troncs, de pieux, de poteaux, de piquets. Un jour, ses pas le conduisirent vers une zone interdite où l'on avait enfoui des obus d'hypérite. Il s'y aventura seul, poussant sa carriole. Une carcasse d'avion allemand servait de perchoir aux corneilles au milieu d'un champ. Des murets d'une vingtaine de centimètres de hauteur délimitaient l'emplacement des classes de l'école communale de Bierancourt. En fouillant les décombres, il dégagea trois poteaux à demi consumés et les emporta vers son antre. Ils figurèrent au centre de sa composition comme une métaphore de ce pal à trois branches, le tripalium, d'où nous est venu le mot « travail ». Une Marseillaise martiale salua l'inauguration du monument le 11 novembre 1928 pour le 10e anniversaire de l'armistice. Ni les officiels, ni même l'artiste, ne surent jamais qu'ils honoraient également six pauvres gars raflés un soir de vague à l'âme, et un ancien pianiste du concert Mayol fusillé pour avoir pianoté la chanson de Craon sur un harmonium désaccordé à Courmelois. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc nos lectures en liberté que nous retrouverons demain avec un autre texte. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.